Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi, je pense qu'on n'a plus des grands artistes. Il n'y a plus de Salvador Dali. Il n'y a plus de Andy Warhol. Je pense que les footballeurs aujourd'hui, c'est les grands artistes de cette société.
Le rap a vécu exactement ce que le rock a vécu. Ils ont perdu leur partie génitale. C'est pas compliqué.
Si pour ma première saison dans l'After et à RMC, j'ai deux finales anglo-anglaises en Ligue des Champions, j'invite tout le monde au resto. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le monde.
Toujours 0-0 dans cette finale de la Ligue des Champions. Ça va être tiré de la droite vers la grosse.
Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les quatre drôles de dames, Paulo Breitner, Edgar Grollo, Daniele Manoucia et Julien Laurence, on est ensemble jusqu'à 22h. L'After prend le relais pour une spéciale Mercato, bien sûr. Hein, les jeux sont faits depuis maintenant 1h, 3 minutes, en tout cas, en France, comme en Angleterre, en Italie et en Allemagne. Tiens, Julien, à l'instant, on apprend l'officialisation du prêt de Matt O'Reilly à Marseille. Lui qui est arrivé en provenance de Brighton. Hein, il est arrivé pour 30 millions d'euros à Brighton en provenance du Celtic. Il est danois, milieu de terrain. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ce soir? Est-ce que c'est une bonne pioche pour l'OM?
Voilà, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup, qui a connu des blessures un petit peu la saison dernière, et qui n'a pas beaucoup joué, qui était titulaire l'autre jour avec Brighton à Everton, où ça s'est pas très, très bien passé pour lui, dans le sens où il n'était pas vraiment dans le rythme. Et pour jouer pour un club comme Brighton, avec Hurtzeler, il faut vraiment que physiquement tu sois au top, comme un petit peu avec Deserbi d'ailleurs aussi. Donc ça, ce sera à voir. Mais en termes de talent footballistique et technique, c'est très fort au Celtic. Il était formidable à voir jouer. C'est un joueur qui était très fort au centre de formation de Fulham, qui a dû partir parce qu'il pensait qu'il n'aurait pas sa chance en équipe première, qui est parti à MK Dons en 3e division anglaise, où il s'est révélé. Et c'est de là qu'il est parti ensuite au Celtic. Mais c'est vrai qu'il est un peu fragile physiquement, mais sinon, c'est un vrai beau joueur de ballon. C'est un joueur, Nico, que t'adorerais, toi, chaussette baissée un petit peu. Ah, enfin, oui, tu vois, c'est ce genre de joueur-là. Ah, non, mais à voir jouer, c'est magnifique. Oui, c'est très beau. Donc voilà, j'espère qu'il aura l'impact sur Marseille que Deserbi voudra qu'il ait, dans un rôle de meneur. C'est son meilleur rôle, je pense, derrière une pointe, derrière un attaquant, ou voilà, c'est un facilitateur. C'est tellement un beau joueur de ballon. Donc non, je suis très excité de le voir en Angleterre.
Tiens, Christian Lagarde qui nous dit rien à voir. Hein, Velvet Underground et Andy Warhol, cohérent. Daniele Manoucia, bien sûr, exactement.
Merci.
On est sur un vrai petit bobo italien, j'ai l'impression, cette saison en Italie. Alors, Liverpool a-t-il tué le game en Première Ligue avec ce mercato? C'est comme ça que tu nous as vendu ton sujet, Julien, parce que bon, c'est fou. Complètement dingue, le mercato. Alors aujourd'hui, disons que Marc Guéhi, on pensait que ça allait se faire, finalement ça a capoté. On sait pourquoi, Julien, ou pas? Non.
Ouais, simplement parce que Palace voulait un remplacement. Il y avait déjà JD Canvo de Toulouse qui est arrivé, qui est très bien, ils sont très contents. Mais c'est plus pour l'avenir, vu qu'il a que 19 ans. Et donc, il voulait Igor de Brighton, l'ancien Ludinese, que Daniel les connaît bien. Et au final, ça a capoté après qu'il ait passé sa visite médicale. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il ne restait plus beaucoup de temps. Et donc ils ont préféré garder Guéhi, qui partira donc libre maintenant l'été prochain, ou alors en janvier, mais j'y crois pas trop en janvier. C'est dommage parce que Palace ne voulait pas le laisser partir pour gratuitement. Ce n'est pas un club qui peut se permettre de laisser partir une de ses stars, son capitaine, pour rien du tout. Mais malheureusement, pour moi, ils sont fautifs sur ce coup-là, hein, de pas avoir su ou pas avoir eu une autre option que Igor comme ça. Je trouve que ça montre un peu de l'amateurisme.
Bon, Julien, combien Liverpool a dépensé cet été?
J'ai perdu un peu les comptes. Hein,
moi, je suis à 500, hein, quasiment 500 millions d'euros. Voilà, 500 millions d'euros.
Un demi-milliard d'euros.
C'est complètement dingue. Alors, il y a plusieurs records. C'est un record, bien sûr, pour la Première Ligue, je crois, sur un été.
Ouais, enfin, même, je pense, pour toute l'Europe.
Toute l'Europe.
Je ne me rappelle pas d'un club qui dépensait plus d'un demi-milliard d'euros.
Là-dedans, il y a beaucoup de Wirtz, mais il y a beaucoup, surtout, d'Alexander Isak. 150 millions d'euros. Là, c'est un record pour la Première Ligue également, de transfert. Jamais un Suédois n'a coûté aussi cher. Même pas Ibrahimovic, bien sûr. Il faut rajouter Hugo Ekitike, Miloš Kerkez, Jérémy Frimpong notamment.
Il va pas être content, Zlatan.
Zlatan, si tu nous écoutes, Zlatan, oui, effectivement, mais bon, voilà. Non seulement t'as pas gagné des champions, mais t'as pas le record du Suédois le plus cher de l'histoire. Quel regard, ça, ma question d'abord, Julien, avant qu'on parle de l'effectif et de savoir si ce Liverpool-là peut écraser la Première Ligue. Quel regard on porte en Angleterre? Est-ce qu'on porte un regard critique sur le marché de Liverpool?
Non, critique non. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs, notamment les gros clubs, bien sûr, qui regardent, qui applaudissent en disant, voilà, vous avez su gérer votre club comme il le fallait. Ils ont D'accord, il y a la manne financière de la première ligue quand tu es champion par exemple, ou les droits télé, tout ce qu'on veut, ça c'est sûr, c'est énorme, bien plus qu'ailleurs, on l'a déjà dit, encore une fois quand tu remportes la première ligue, très bien, mais ils ont agrandi Anfield de manière très intelligente, qui leur apporte beaucoup d'argent pour chaque match à domicile. Ils viennent d'avoir ce deal de sponsor avec Adidas, donc pour changer leur équipementier, qui leur apporte aussi une fortune, comme avec beaucoup d'autres de leurs sponsors. C'est un club historique, bien sûr, légendaire, mais ils ont aussi un département marketing et sponsoring qui est très très développé, donc bravo à eux. Faut pas non plus oublier qu'en janvier dernier ils ont recruté personne, que l'été dernier ils ont recruté personne, qu'ils avaient donc emmagasiné de l'argent et de l'argent dans les comptes pour un moment se dire on va le dépenser au bon moment sur les bons joueurs quand il faudra. Je pense que après le départ de Klopp, ou même à la fin de la période Klopp, il s'était dit on va avoir un nouvel entraîneur, on va voir comment ça va se passer, mais si l'effectif est encore compétitif quand le nouvel entraîneur va arriver, on le laissera comme ça et on investira pour l'année 2, à l'an 2 ou l'an 3. Et ils avaient déjà prévenu en milieu de saison dernière que l'été serait un été très animé, où il y aurait beaucoup et de départs et d'arrivées, parce que c'est ça le dernier point, c'est qu'ils sont très très bien vendus aussi, donc acheter. Bien sûr, les Galacticos au Real chez Edgar avaient très bien acheté, Florentino Pérez, etc., tout ce qu'on veut. Mais de très bien acheter, de très bien vendre, pas beaucoup savent le faire, ça. Et quand tu vois un Kwanza au Bayer Leverkusen pour 35 millions d'euros, quand tu vois Darwin Núñez, quand tu vois Luis Diaz, quand tu vois le jeune Morton même à Lyon, par exemple, qui était un joueur de championship, t'arrives quand même à récupérer 10 millions. Harvey Elliott est parti en prêt, mais avec une obligation d'achat à Aston Villa pour 35 millions de livres pour l'été prochain. Ils ont été très, très intelligents dans la façon dont ils ont géré c'était par là, Keller à Brentford aussi. Ils ont été très intelligents dans cette façon-là de vendre, dans leur savoir-faire de vendre. Richard Hughes et Michael Edwards, qui méritent beaucoup, beaucoup de crédit et d'applaudissements sur ce qu'ils ont fait cet été. Et puis après, ils avaient tout cet argent-là.
Et puis l'Oseille aussi, exactement. L'Oseille était champion d'Angleterre, t'es Liverpool. Voilà, toutes les planètes étaient alignées, quoi. Quand tu dis, tout à l'heure cet après-midi, tu envoies ton mail en disant bon, je parlais de Liverpool, de ce mercato qui, à mon sens, va tuer le game. Tu parles de quoi? De la première ligue? Tu parlais du mercato? Tu parles de quoi? Est-ce que pour toi, ce mercato suffit à anticiper l'idée que Liverpool va marcher sur la première ligue, même si, bon, on peut parler du match aussi contre Arsenal. Arsenal sera évidemment, c'est considérablement renforcé aussi, quoi.
D'accord, mais t'es champion, et en plus de ça, sur ton groupe de champions, alors oui, t'as perdu Luis Diaz, Darwin, etc., Jota, malheureusement, tout ce qu'on veut. Mais tu te rends compte ce que t'as apporté à ce groupe-là, le groupe qui est déjà champion, qui a Mo Salah et Virgil van Dijk et Alisson, et en plus tu rajoutes Isak et Wirtz et Kerkez et Frimpong, enfin, c'est juste équitiqué, c'est juste hallucinant, quoi. Donc t'as encore plus renforcé une équipe qui est déjà très forte l'année dernière, qui est déjà championne. Alors ce qui sera vraiment intéressant pour essayer d'apporter un petit peu le pendant, parce que oui, ils ont tué le game, un marché de transfert comme ça, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. C'est que l'année dernière, quand Slot est arrivé, il a rien eu à changer. Oui, il a changé des habitudes, il a changé un petit peu tactiquement, il a été très intelligent dans ce qu'il a fait, il a été très fort. Mais finalement, les automatismes, ils étaient déjà là. Entre Konaté et Van Dijk, entre Salah et McAllister, Salah et Gravenberg, ça, c'était déjà là. En revanche, cette année-là, cette saison-là, il va falloir trouver les automatismes, les bonnes combinaisons entre Wirtz et Salah, entre Wirtz et Ekitike, ou Ekitike et Isak, Isak et Wirtz, même entre Frimpong et Konaté, entre Kerkez et Van Dijk, au milieu de terrain, comment tu t'organises, comment tu fais dans tes circuits préférentiels, dans ton pressing, dans ton contre-pressing, dans ton bloc bas, dans ton bloc haut, dans ton bloc médian, tout ça. Ça, en revanche, ça va être nouveau, parce que là, tu pourrais avoir, on va dire, qu'Isak, Wirtz et Ekitike seront titulaires. On va mettre ça comme ça, on met Ekitike à gauche, Isak dans l'axe, Wirtz derrière. Ça fait donc déjà trois nouveaux joueurs, plus les deux latéraux. Ça fait 5 nouveaux titulaires sur 11. C'est énorme de changer 5 titulaires sur 11 pour une équipe qui tournait si bien la saison dernière. On voit déjà un petit peu l'impact que ça a sur Mo Salah, qui fait un début de saison très moyen, même s'il a un but, une passe d'ess. Donc ça, c'est nouveau. Il va falloir que Slot adapte et intègre tous ces joueurs-là dans son système, dans la vie du groupe, dans le vestiaire, tout ce qu'on veut. Ça va être vraiment intéressant. Mais sinon, ils ont tué le game tous les jours.
Bon, ils joueront Marseille en Ligue des Champions. Ce sera la semaine du 21 janvier, avant-dernière journée de la phase de Ligue de Ligue des Champions. Edgar, tu voulais réagir?
Oui, parce que ce mercato de Liverpool est, bon, globalement le mercato de l'Angleterre, mais vu d'Espagne, il est très commenté, parce que les Espagnols, j'ai l'impression, de plus en plus, les fans de foot espagnol et l'écosystème espagnol a l'impression d'être dépassé, et sûrement
déclassé.
Raison, hein, par rapport à la Première Ligue, parce que longtemps c'était le débat, quel est le meilleur championnat du monde? Est-ce que c'est la Première Ligue qui a plein d'équipes compétitives? Est-ce que c'est la Liga qui a le Barça, le Real avec les plus grandes stars du monde? Et maintenant, en fait, les Espagnols se rendent rendent compte que déjà financièrement ils ne peuvent pas suivre. Je regardais là les clubs les plus dépensés. Enfin,
Edgar, ils le savent depuis quelques saisons, ça quand même. Non, ils n'ont pas découvert cette année.
Oui, bien sûr, mais chaque équipe, chaque année, c'est un peu plus. Là, la Liga est le quatrième championnat à avoir dépensé le plus, donc ils sont dépassés même par d'autres championnats. On en parlera sûrement la semaine prochaine, mais là, dans les 40 clubs qui ont dépensé le plus d'argent, il y en a que 3 qui sont espagnols: l'Atlético, le Real et Villarreal. Là où il doit y avoir tous les clubs anglais de première ligue, et les Espagnols se comparent en fait aux Anglais, même sur d'autres choses. Je pense par exemple à l'arbitrage, où les arbitres anglais évidemment sont souvent une référence, mais même sur les moyens qui sont mis sur différentes choses. Par exemple, en Espagne, ils n'ont pas payé pour avoir la goal line technology. Donc ça, c'est vu par beaucoup comme un déclassement par rapport à la première ligue. La VAR l'autre jour n'a pas fonctionné pendant 40 minutes à Rayo Espagne. Tout de suite, tu avais des personnes qui disaient, mais est-ce qu'on peut imaginer ça en première ligue? Et en fait, il y a presque un complexe qui est en train de se créer par rapport aux moyens des deux championnats, même si évidemment c'est pas nouveau. C'est encore plus évident maintenant que le Barça, depuis quelques années en plus, peut quasiment pas dépenser.
Bon, en tout cas,
regarde, t'as qu'un club anglais en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière, donc ça veut pas forcément dire que tout cet argent investi, c'est le marché des transferts record, hein, c'est plus de 3 milliards dépensés par tous les clubs de première ligue, c'est juste hallucinant. Et je pense que Polo est en train de se mordre les lèvres pour rien dire.
On va l'écouter parce qu'on va pas se voir dans un instant.
Polo, on sait ce que t'en penses, mais ça veut pas forcément dire, et bien heureusement d'ailleurs, que tout cet argent dépensé va t'amener du succès, etc. On verra cette saison en Ligue des Champions aussi, mais oui, c'est vrai que ça commence malheureusement à être un petit peu trop en faveur de la Première Ligue par rapport aux autres.
Même si l'Espagne ne s'exporte pas tant que ça en Première Ligue, pour le coup. On en parlera aussi la semaine prochaine sur les mouvements de pays à pays.
Ils vendent pas particulièrement bien, les clubs espagnols.
L'Espagne, en Espagne, le mercato de l'été, c'est 600 millions d'euros de transactions. C'est à peine plus que le mercato de Liverpool seul en Première Ligue.
C'est à peine plus que la Ligue 1, là où la Ligue 1, pourtant, gagne plus d'argent, vend pour plus en fait qu'elle n'achète.
Exactement.
À la différence de la Ligue 1.
Wirtz a quitté la Bundesliga pour la Première Ligue, c'est le tout début du mercato, et Nick Voltemad aussi, de Francfort à Newcastle pour 90 millions d'euros. Alors Polo, ce transfert a ému une partie de l'Allemagne, surtout la Bavière, hein. Je rappelle bien sûr que le Bayern le désirait fortement.
Alors plus que émouvoir, le transfert a surtout fait beaucoup rigoler quand même. Parce que 90 millions d'euros pour un joueur qui n'était même pas dans la liste de Stuttgart en Ligue des Champions, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est surtout que depuis quelques années, le football allemand tangue en se posant la question, est-ce qu'on doit commenter à faire cette fameuse Rattenrennen, cette course de rat, donc c'est une expression qui vient de l'économie, c'est-à-dire de vouloir être compétitif à tout niveau, tout le temps. Et donc vous savez, la course de rat, en fait, c'est un rat qui est dans sa cage, et puis il a sa petite roue, il passe son temps à courir, en fait. Vous savez, à rouler, la roue tourne tout le temps, mais en fait, tu rattrapes tout le temps, parce que t'es forcé de courir tout le temps pour être toujours plus compétitif. Donc ça, c'est des concepts économiques qui sont arrivés un petit peu dans le monde du football, et l'Allemagne se pose la question de savoir mais à quoi ça sert finalement de se positionner par rapport à la Première Ligue à partir du moment où on ne peut pas concurrencer. Je rappelle que les chiffres annoncés par Julien, je les trouve assez exceptionnels, parce que 3 milliards d'euros de dépensés, c'est le chiffre d'affaires de l'Italie annuellement, tout compris. Donc c'est assez impressionnant quand même. Et la deuxième chose, c'est donc qui est le cas en termes de
la Serie A, tu parles, c'est ça, de
la Serie A, oui, c'est oui, bien sûr.
Ah, enfin, les pays,
t'es une des principaux pauvres, on verra plus tard.
Mais et donc les Allemands, je les trouve extrêmement pragmatiques, excepté quelques éditorialistes, qu'il y en a un par exemple dans Kicker qui a écrit ce n'est plus mon football. Le mec, il a 40 ans, donc en fait il était déjà né dedans, mais il a pas compris dans quelle période il vit. Mais si vous voulez, ce qui me passionne là-dedans, c'est que l'énorme majorité des Allemands et éditorialistes, économistes allemands disent mais on s'en fiche finalement d'être compétitif. Ce qui est important, c'est que nous, on ait un championnat qui ressemble à quelque chose et qui ressemble à notre identité. Et je le dis d'une façon très simple, jamais, je le répète, ça doit faire la troisième ou quatrième fois depuis le début de la saison, que jamais les clubs allemands n'ont été aussi riches, aussi puissants, aussi gros, sauf qu'il y a un championnat qui est encore plus gros qu'eux. Donc, ils disent, mais si on doit devenir un club formateur, si on doit juste avoir, et que la première ligne nous les prend au bout d'un moment, pour qu'on puisse nous construire des stades qui sont encore plus modernes, comme je disais, la dixième, avec le transfert de Voltemade 2 en première ligue, oui, tu peux à Stuttgart, non mais attendez, 90 millions, c'est 3 années de présence en Ligue des Champions, assurée. Donc c'est pas juste comme ça. Et ce n'est pas le problème, je le dis depuis le début, ce n'est pas le problème de la Première Ligue, de ce qu'elle a décidé de faire, parce que c'était dans ses gènes au départ, dans la définition de ce qu'était la Première Ligue. Donc faut pas se rendre compte 30 ans après de ce que ça produit. C'est ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, tu peux avoir des alternatives. Le football allemand jamais n'a été aussi content, et c'est très paradoxal, de, je parle dans sa majorité, parce qu'il y a toujours des voix dissonantes, et évidemment, je pense à Félix Magath ou Oliver Kahn. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Félix Magath, qui a entraîné en Première Ligue, Oliver Kahn, ce sont des libéraux, ce sont des gens qui veulent toujours être dans la compétitivité, dans la compétition et y arriver. Mais les Allemands, aujourd'hui, sont en train de dire les titres. À quoi ça sert? Je discutais avec Najib cet après-midi. Si on estime que le Borussia Dortmund est top, entre le top 10 et le top 16 européen, combien le Borussia Dortmund doit dépenser d'argent sur le marché des transferts pour arriver dans le top 8? À quoi ça sert? À quoi ça sert?
Oui, en clair, voilà. Donc, on est impuissant, acceptons notre sort.
Mais voilà, et nous, de toute façon, on n'a jamais eu autant de personnes dans les stades, on n'a jamais eu autant d'argent en Bundesliga, on n'a jamais eu autant, si on veut dire, moins de difficultés que les autres championnats par rapport à la notion des investissements externes des États, etc., des grands investisseurs. On a, je le dis, le système associatif qui explose dans tous les sens, tellement il y a de personnes qui viennent payer, comme moi je viens de le faire encore cette semaine, leur abonnement annuel à leur club. Et en fait, le modèle allemand, il fonctionne très bien à l'ombre, et là je reprends un titre qu'avait fait Kicker aussi, à l'ombre de la Première Ligue. Le problème, c'est pas la Première Ligue, le problème c'est que c'est systémique. C'est-à-dire que tant que la Bundesliga aura le droit à ses quatre clubs en Ligue des Champions, qu'est-ce que ça va changer d'être éliminé en huitième, en quart, ou de faire un exploit comme Dortmund d'aller en finale? Ça ne change rien. C'est-à-dire que tout ça n'est pas, de mon point de vue, réfléchi par la l'UEFA. La Première Ligue fait son truc. On peut même penser à la fameuse Super League, mais moi c'est déjà dépassé quand je vois la puissance des clubs anglais. Quelle est l'utilité, je parle contrôle sur le génien, de la Première Ligue aujourd'hui de scoltiner le Real, le Barça, le Bayern, l'Inter ou le PSG? Dans 10 ans, ils n'existent plus par rapport à l'évolution de ce que font la Première Ligue. Donc toutes ces choses-là, parce qu'il n'y a pas de décisionnel, parce qu'on ne veut pas réguler, parce qu'on est dans une période depuis 40 ans qui nous explique qu'on fait ce qu'on veut avec son argent, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du monde, et je me tourne vers Daniele et sur la Rome antique, où il fallait contrôler, on disait aux riches, hey, tu te calmes un peu avec ton pognon, tu fais des choses bien avec, morale. Mais aujourd'hui, on s'en fout. On dépense le truc, tout le monde s'éclate pour Liverpool. Très bien, si tu es supporter de Liverpool.
Exactement, parce que de toute façon, il n'y a pas d'harmonie européenne là-dessus, mon cher Polo. Chacun fait ce qu'il veut dans le championnat avec ses propres règles.
Faut pas s'étonner. Moi, ce que je constate, c'est ce que je dis depuis le départ, c'est 95% du football européen a disparu. Et il y a des mecs, des économistes, évidemment les libéraux et consorts, qui nous expliquent que c'est génial. Je dis, attends, où c'est génial? À quel moment c'est génial? À quel moment l'Austria-Vienne n'a plus le droit d'être compétitif? Pourquoi le Rapide n'est plus une équipe en finale, le Steaua? Pourquoi les clubs nordiques sont plus là? Pourquoi le Portugal essaie juste de vivre avec
Benfica?
Les
Anglais te répondront parce qu'ils ont bien travaillé depuis le lancement de leur première ligue il y a 35 ans maintenant, 40 ans même, et que c'est leur mérite aussi.
Non, mais la première ligue a utilisé ce qu'a fait l'Union européenne, c'est-à-dire ça n'arrive pas comme ça. Je veux dire, la libre circulation des capitaux, la libre circulation des personnes et la libre circulation des marchandises, c'est pas la Première Ligue qui l'a créé. Eux, ils ont fait un truc qui est extraordinaire. Ils ont travaillé sur la langue anglaise. C'est-à-dire qu'ils ont on parle partout l'anglais, donc ça permet de vendre partout, etc., etc. Ils ont vendu un produit qui est très intéressant, qui pose d'autres problèmes. Parce que moi, quand je vois les comptes de certains clubs, je rappelle que les clubs allemands se font pas choper par l'UEFA dans le fair play financier. Les clubs anglais, il y en a certains qui ont été chopés. Mais quand les clubs italiens se font choper, on dit, ah là là, la gestion italienne, c'est dégueulasse, c'est des tricheurs. Par contre, pourquoi personne ne le dit pour la Première Ligue? Pourquoi personne n'écrit là-dessus?
Bah écoute, d'ailleurs, faudra qu'on prenne des nouvelles du procès de Manchester City, savoir où on en est, effectivement. On attend toujours, on en a parlé il y a un an et demi déjà, on n'a pas de nouvelles pour l'instant.
Je voudrais dire que qu'Edgar nous dise que les Espagnols sont en train de s'en rendre compte. Bah, c'est bien, au bout de 25 ans, ça va, mec, on a compris, quoi. le mec, c'est pas Edgar, hein, c'est
espagnol.
Non mais le cinquième championnat européen, le français, n'existe plus. C'est pas la faute de la Brune. Alors,
effectivement.
C'est la Brune. Sinon la Brune, il y a un la Brune autrichien, il y a un la Brune nordique, il y a un la Brune.
Non, et puis pour le coup, Julien, répondre que ce n'est pas un club anglais qui a gagné la Ligue des Champions cette dernière, ça ne suffit pas à l'exposé que nous fait Polo, parce que la tendance sera lourde dans les prochaines saisons.
Non mais bien sûr.
Et tu auras toujours des Anglais en demi-finale ou au sommet de l'Europe.
Mais c'est pas comme si on avait eu 4 clubs anglais sur les 2 demi-finales la semaine dernière non plus.
Bon, non, tu as raison, mais il y a des épiphénomènes parfois et a priori ça risque de se profiler ainsi. Bon, en tout cas, la Première Ligue se mange la plus grosse part du gâteau, quasiment tout le gâteau désormais. On en parlera la semaine prochaine. On fera un vrai bilan des mercato, des tendances dans vos championnats espagnols, italiens, anglais et allemands et le regard que les uns portent sur les autres surtout. Voilà pour Volt Mado. On avait commencé à parler de lui. Alors, est-ce qu'il va réussir aussi? On va voir. Parce que Polo, tu rappelles aussi qu'il a fait même pas 6 bons mois en Bundesliga. Hein, ce garçon.
Mais ce mec,
il a une tendance folle sur l'Euro Espoir aussi, où il a marqué 6 buts.
Exactement, où il a fait une deuxième partie de saison extraordinaire. Le seul qui n'est pas content en fait en Allemagne, c'est Sébastien Hoeneß, puisqu'il avait construit son équipe 2025-2026 autour de lui.
Bayern,
mais ça reste quelqu'un que moi j'avais entendu il y a 5 ans, qui avait échoué à Brême, qui avait échoué à Brême, qui avait réussi en 3e division à Elversberg à marquer 10 buts. Enfin, ça va quoi. C'est le mec en 70 matchs, il a marqué 6 buts, enfin 14 buts. C'est comme s'il avait fait une saison, il a marqué 6 buts, et le mec, on le vend 90 millions, ben faites. Hein. Ben moi, je veux dire, envoyez-moi le chèque aussi, hein, moi je suis prêt. Hein.
Ouais. Johan Wissak a signé également à Newcastle pour environ
65 millions d'euros.
Voilà, merci pour la conversion en livre sterling en euros. Julien, tu gardes la parole. C'est la minute anglaise. Suspense. Qui est-il au programme musical de Julien cette semaine?
Un peu Jungle pour ceux qui connaissent ce groupe britannique de soul funk un petit peu, et cette chanson elle s'appelle Time, comme le dit si bien Thierry Henry, hein, le temps n'a pas de temps sur le temps, ou je sais plus ce qu'il avait dit comme expression, parce qu'on a vu James Milner ce week-end dimanche contre Manchester City inscrire le premier but de son équipe à Brighton pour égaliser un partout contre son ancien club, à l'âge de 39 ans et 239 jours, donc devenant le deuxième joueur le plus âgé dans l'histoire de la Première Ligue à inscrire un but en championnat, derrière Teddy Sheringham, qui lui avait 40 ans et 264 jours, donc un an de plus quasiment avec West Ham lorsqu'il avait mis ça en 2006-2007. Et le plus fascinant finalement avec James Milner, c'est pas qu'il soit donc devenu le deuxième plus vieux joueur à marquer à quasiment 40 ans, c'est qu'il est déjà le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Première Ligue avec avoir marqué, puisque c'était un petit génie quand il était jeune. James Milner, il avait marqué avec Leeds United quand il avait 16 ans et 356 jours, donc juste avant son 17e anniversaire, à l'époque en 2002. Donc voilà, il y a 22 ans, un peu plus de 22 ans maintenant. Et pour que James Milner donc soit à la fois dans le classement des plus jeunes buteurs de l'histoire et des plus vieux buteurs de l'histoire, moi je trouve ça incroyable. Vraiment incroyable, c'est un joueur fantastique. J'étais au match d'Everton Brighton pour l'ouverture du nouveau stade, on en a parlé la semaine dernière. Il n'a pas joué. Et quand tout le monde était rentré au vestiaire, alors t'as souvent les remplaçants ou ceux qui n'ont pas beaucoup joué qui sait qu'ils font des longueurs de terrain pour le fitness. Ben non, lui, il faisait pas les longueurs de terrain, il avait un ballon, un coach adjoint, et il faisait des 1-2, des changements de direction, des passes en profondeur, il revenait, tu le voyais pressé en fait et contre-pressé, donc il prétendait avoir perdu le ballon pour ensuite aller chercher le ballon très haut. Voilà, je trouvais ça fascinant, je le regardais pendant que je faisais mon émission de radio anglaise, c'était incroyable. Et voilà, moi je trouve que c'est fantastique qu'il y ait une telle longévité à cet âge-là, et pas simplement la longévité, mais aussi d'avoir été performant si jeune. Alors c'est vraiment pas facile en Angleterre d'être performant si jeune, et puis après pendant toute sa carrière, que ce soit à City, à Liverpool, et puis maintenant encore à Brighton où il apporte avec son expérience, avec sa gentillesse. C'est vraiment un mec génial, en plus pour tous ceux qui le connaissent un petit peu ou qui ont été ses adversaires ou coéquipiers. Donc voilà, je voulais rendre hommage à James Milner parce qu'il le mérite vraiment beaucoup beaucoup.
James Milner de Leeds en 2002 à Brighton en 2025. Voilà, bon choix musical. Tu rappelles la référence musicale s'il te plaît, Julien?
Jungle. C'est vraiment un super groupe.
Très bien. Dans un instant, on parle du mercato du Milan, de l'AC Milan, avec Daniele Adrien Rabiot, qui l'a rejoint, c'est officiel, depuis une grosse demi-heure désormais, pour environ 10 millions d'euros. Et Christopher Nkunku arrive aussi au Milan. Reste avec nous, les Drôles d'âmes sont sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After. Nicolas Jamin.
Avec les drôles de dames, Daniel Emmanoussi, Apollo Breitner, Julien Laurence et Edgar Grolot. Alors, avant de passer à la match, libère à 22h, encore 25 minutes avec les drôles de dames sur RMC pour parler notamment du Milan. Le Milan qui s'est imposé hein, ce week-end, 2-0, c'était sur la pelouse de Lecce, Loftus-Cheek et Pulisic pour la première victoire milanaise de la saison. Daniele, le mercato a été agité hein, ces dernières heures pour le Milan qui s'est renforcé. On en a beaucoup parlé en France bien sûr puisque c'est le Milan qui va accueillir Adrien Rabiot, 10 millions d'euros pour l'international français. Comment on commente son retour en Serie A chez toi justement ?
Bah, il y a de scepticisme chez les supporters. Oui, surtout parce que c'est pas les profils que aime le Milan AC en ce moment. C'est-à-dire, c'est pas un joueur que ils vont revendre plus cher dans pas longtemps. Polo, tout à l'heure, il parlait justement de la compétition sur le marché. Ben, en Italie, il y a plusieurs équipes qui sont dans un état économique pas facile et il doit forcément essayer de faire des plus-values. Et le Milan AC, c'est de propriété, on connaît, d'un fonds d'investissement. Donc voilà, leur but, c'est plutôt de monter la valeur du club et après les revendre. A priori. Après, ça se trouve, ils vont rester pour 20 ans. Bon, d'ailleurs, parenthèse, tout ça fait qu'en Italie, on est nostalgique de Berlusconi, Cragnotti, de cette époque où il y avait des présidents qui mettaient l'argent et par contre l'argent sortait d'une poche, rentrait de l'autre. Le club, après, il s'est fracassé, il allait en Serie C, etc. Mais il y a effectivement des gens qui nostalgiques des années 90 où l'Italie, elle était un peu puissante. Ben là, on a affaire avec un mercato un peu différent où les Milan AC, par exemple, les supporters, ils sont contents. Les journaux, ils mettent les Milan comme un des plusieurs, peut-être le plus important outsider pour le Naples. Naples, d'ailleurs, a fait un mercato intelligent. Aujourd'hui, il est arrivé Højlund, encore 50 millions pour remplacer Lukaku pour 4 mois. Mais Højlund, il peut bien marcher, ils vont le garder et ça va prendre la valeur aussi. Mais au-delà de Naples, il part de Milan, même s'ils ont perdu le premier match. Ils ont gagné contre Lecce, c'était pas flamboyant. Et sur le mercato, on connaît bien, ça fait des mois qu'ils essayent de prendre Vlahovic. Vlahovic, finalement, il n'est pas venu. Il voulait prendre Boniface. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant les visites médicaux, mais même pas Boniface. On a parlé jusqu'à cet après-midi d'échanger Santi Jiménez avec Dovbik. Pour la Rome, ça s'est pas fait. Là aussi, on comprend pas pourquoi. Jiménez, il a mis en histoire, genre, parce qu'on est supporter de Milan AC. Oui, mon gros, je pense que c'est pas toi qui as décidé, mais bon, on va voir ça aussi. Mais les Milan AC, là, il a pas de numéro 9, pas un nouveau numéro 9 au moins, mais il a deux numéro 10 sur le côté gauche, c'est-à-dire son meilleur joueur, Rafa Leão, et Christian Kunku. Au moins qu'un des deux, il va jouer numéro 9. Ça, on ne peut pas savoir. Quand ils ont demandé à Allegri, à la fin du match contre Lecce, qu'est-ce qui va se passer avec un Kunku, lui, vous savez, il est très sincère. Faute à pas faire belle figure. Mais il a dit, moi je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Il a dit ça. Il a dit, je ne sais pas comment je vais l'utiliser, mais il a des qualités. Oui, bien sûr. Mais le Milan, c'est... Franchement, j'ai plus de doutes que de sûreté sur Milan. Mais après, ils ont pris des joueurs intéressants. Ardon Yachari, qui est d'ailleurs Santi Jiménez... Quand les choses elles vont mal, voilà, tout s'écroule. Il lui a cassé la jambe, l'éperon. Donc il va sortir.
Le péroné, c'est ça.
Ouais. Mais lui, donc il va être loin des terrains pour quelques mois. Mais c'est un très bon joueur, jeune, intéressant. Bon, après, je l'aurais pas donné à Allegri, mais on va voir. Samuele Ricci, c'est un jeune, technique, intéressant. Modric. Bon, c'est Modric, c'est une légende. Il est déjà très important, même trop important pour ces Milan. Estupiñán, pour changer Théo Hernández, c'était vu comme un changement positif. Parce que Théo Hernández, c'était un peu le meneur des chaos dans les vestiaires de Milan. C'est lui qui a fait il a pris Leao, il lui a dit de pas aller sur les bancs l'année dernière avec Fonseca, donc c'était lui qui troublait un peu l'ambiance. Conny De Winter, un défenseur très bien. Moi je l'adore personnellement, il vient des Gênes, il était à la Juventus avant et tout ça, mais il a pas joué. Après là, il parlait de prendre Akanji, un autre défenseur, parce qu'à la défense, moi je pense qu'ils sont un peu mal en pointe. Et il parlait d'Akanji, il parlait de Foyt, et après ils ont pris David Odogwu en 2006 de Wolfsburg avec moins de 200 minutes de chez Wolfsburg. Il parlait aussi de Jürgen Metz. Après, je ne sais pas, Polo peut-être il le connaît mieux que moi, et David Odogwu c'est un gros espoir, donc voilà, ça va se bien passer. Mais
Polo,
c'est
tu toujours un peu trop blanc.
Bah, pas spécialement, parce qu'il joue pas. Donc,
200 minutes, on n'a rien vu. Hein.
Ouais, le problème de l'espoir, c'est toujours pareil, quoi. Et ça dépend surtout dans quel club. D'ailleurs, ça, c'est, je reviens juste sur ce que j'ai dit avant, c'est un gros débat en Allemagne de faire jouer les jeunes et où les faire jouer. Oui. Parce que, et c'est le problème du Bayern, mais le problème aussi, je pense, de l'Inter ou d'autres clubs, ou du Real ou du Barça et tout ça, où on les fait jouer les jeunes, parce que, donc il faut passer des contrats, parce que souvent on se rend compte qu'on a acheté des jeunes, le Catel, qui aujourd'hui est en première ligue, est très intéressant au Bayern, en fait, il a pas sa place dans le 11 de départ, donc il jouait des bouts de match, etc., jusqu'à ce que le coach en ait marre qu'il jouait des bouts de match, lui-même a le droit de se dire, bon, je pars, et tout ça fait que, on va cramer, et même Voltemade, qui a 23 ans, on estime en Allemagne que sa formation n'est pas finie. Donc on se dit, mais partir en première ligue, c'est délirant. Et mais après, moi j'espère qu'il va réussir, hein, c'est pas la question. Mais et donc si tu me poses la question du gamin qui part en Italie, s'il tombe dans des gros clubs, ben tu vas pas le lancer comme ça parce qu'il y a la pression du résultat. Donc c'est quand même, à moins que le gars ce soit l'espoir numéro un, etc. Et là, je pense que Wolfsburg aurait beaucoup plus bétonné son contrat. Mais bon.
Oui. C'est comme ça. Ouais. On dirait pas. En plus, Allegri c'est pas l'entraîneur pour les jeunes. Donc on va vraiment voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Après, c'est vrai que Rabiot, on l'avait déjà dit, c'est un joueur parfait pour le milieu de terrain de Milan. C'est-à-dire au-delà de Naples. Milan, c'est le seul qui a changé beaucoup son équipe, qui a une idée nouvelle, qui a pris un entraîneur comme Allegri, que moi, personnellement, j'ai pas beaucoup, je m'attends pas beaucoup sur le plan du jeu, mais c'est vrai que c'est un manager, un peu à l'anglaise. C'est lui qui avait gardé, il avait serré les rangs pendant que la Juventus elle s'écroulait au niveau de la dirigeance il y a deux ans. C'est lui qui fait face dans les difficultés, c'est lui qui motive ses équipes. Après, qu'est-ce qui va se passer quand les choses elles vont pas bien? Parce que là, il a perdu un match. Et ils ont rien dit. En gros, lui, il a dit non, mais c'est pas une question technique ou tactique, parce que lui, il aime pas. En fait, c'est un entraîneur qui aime pas parler des tactiques et techniques. C'est quand même bizarre.
Oui, ça, oui.
Et ils lui ont rien dit. Ils ont dit bon, d'accord, ça, c'est Allegri. On va voir avec Lecce, ça s'est bien passé. Mais qu'est-ce qu'on va faire?
Bon, la chance du Milan, Daniele, c'est que entre guillemets, hein, le Milan ne joue pas la Coupe d'Europe cette saison, donc ils vont pouvoir se concentrer à quasi 100% sur la Serie A. Ce sera peut-être un avantage. Oui. On a vu à quel point ça a bénéficié au Napoli la saison dernière. De pas jouer la Ligue des Champions.
Mais Naples était géré d'une certaine manière. Moi, je suis pas sûr qu'Allegri, il arrive. Allegri, jusqu'à janvier, février, il va chercher son équipe. Lui, il le dit tout le temps. Moi, j'ai jamais fini avec la même équipe avec qui j'ai commencé. Mmh. Oui, mais je pense que c'est Milan. Il est pas dans les premières quatre, février, mars. Je pense que les bancs d'Allegri, il va chauffer. Je ne sais pas si on dit ça en français.
Si, c'est très bien, on a très bien compris.
Donc voilà.
Ça va chauffer pour lui, s'il n'est pas dans le top 4 début d'année 2026. Bon. Oui. Voilà pour le Milan. Tiens, Zegrova, hein. Zegrova de Lille, c'est officiel, hein, à la Juve. Hein.
Oui, je pense que la Juve, par exemple, je pense qu'ils ont fait un marché beaucoup plus intéressant. Et ils avaient beaucoup plus de problèmes que Milan, parce que la Juventus, il avait encore les problèmes des dettes à cause du marché raté de l'année dernière, où ils avaient Nico Gonzalez, Douglas Luiz. Ils sont arrivés à tous les vendre. Douglas Luiz, notamment en Nottingham Forest. J'ai pas compris, Julien, si c'est peut-être Douglas Luiz la raison pour laquelle Nuno Espirito Santo s'est fâché avec Marinakis.
Je sais pas.
Mais en Italie, on l'a.
Ça va plus loin que ça, mais oui.
Mais en Italie, on l'a un peu vendu comme ça. Genre Douglas Luiz, il est tellement mauvais qu'ils l'ont acheté à Nottingham Forest et l'entraîneur, il n'est pas content et il s'est fâché avec le président.
Mais la Juventus, elle a fait. Tu sais, c'est oui, le genre de transfert qui sent un truc un peu spécial. Hein. Mais on n'ira pas plus loin parce qu'on n'a pas de problème.
Voilà.
Ouais, bon. Donc voilà, la Juventus, par contre, elle est arrivée à revendre et à acheter quand même des beaux joueurs. Moi, Zegrova, moi, j'adore, franchement.
On adore. On a aimé par moment en Ligue 1, l'homme des fulgurances. On verra s'il va réussir à trouver une régularité en Serie A à la Juve. Voilà pour le Milan, en tout cas. La dernière minute de la soirée, elle est allemande. On envoie la musique, Polo. Das Leben lacht und jede Nacht ist voll Musik. Genießt die Zeit, denn sie kommt nie mehr zurück.
Charles Aznavour, version allemande. 1964, eh oui, ça rajeunit pas. La chanson, ça s'appelle Jugend, la jeunesse, évidemment. Pourquoi est-ce que je vous parle de Charles Aznavour et de la jeunesse? C'est parce que Kicker a sorti un papier un peu polémique, entre guillemets, sur cette jeunesse, voire ce jeunisme allemand qui ne touche pas que les joueurs, mais aussi les entraîneurs. Donc, pour vous donner un exemple, l'Allemagne, c'est à peu près c'est 46 ans de moyenne d'âge pour les entraîneurs actuels. L'Angleterre, c'est 48, l'Espagne, c'est 51, l'Italie, c'est 51, et le pire, c'est aussi la France avec 51. J'ai arrondi, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que l'Allemagne lance des jeunes, et surtout, est-ce qu'ils sont meilleur que les anciens, tout simplement. Et en fait, je pense que Kicker a oublié dans son analyse une donnée, c'est que beaucoup de ces jeunes coachs qui sont lancés en Bundesliga directement, soit qui viennent de centres de formation, soit qui étaient entraîneurs, je sais pas moi, des U19 ou de l'équipe réserve, sans expérience de très haut niveau, et ben souvent ces joueurs n'ont pas été, à l'image de Thomas Tuchel ou de Nagelsmann, des joueurs vrais internationaux qui ont une grande capacité ou des anciens internationaux, etc. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que c'est le mythe de Ralf Rangnick, en fait. Donc le professeur qui sort de nulle part et qui vous explique le football moderne, ce qu'il a d'ailleurs très bien fait, parce que l'Allemagne était en retard à l'époque. Et là, vous avez différents coachs qui débarquent. Et évidemment, Julien en connaît un, c'est Urs Söller, évidemment, qui réussit en première ligue.
32 ans, Urs Söller, ouais.
Mais ce qu'on oublie en Allemagne, c'est tous ceux qui sont lancés et ils ont disparu au bout de 3-4 ans, où ils sont redescendus dans les divisions inférieures. Si je vous parle de Kofeld, de Nouri, de Maassen, de Baum, de Weinzierl, de Korkut, Tedesco, qui était considéré comme le grand concurrent de Nagelsmann à l'époque, Hannes Wolf, Matarazzo, Sork, que connaît Edgar, qui est l'assistant de Danzi Flick à Barcelone. Sork, c'était le pire coach des 30 dernières années à Fribourg. Donc les mecs, en fait, on les lance dans le grand bain et ils réussissent pas forcément. J'ai Klaus aussi, Robert Klaus, qui était un grand espoir, et moi on me les vend en Allemagne comme des petits prodiges, les fameux laptop trainers, ceux qui en fait ils savent pas forcément ce qui se passe sur le terrain, mais alors théoriquement ils connaissent tout. Et puis quand même, pour dire que ce qui se passait dans le passé, bah, c'est encore comme maintenant, comme dans le présent, ne pas oublier qu'un certain Udo Lattek, l'un des plus grands coachs allemands, qui a gagné la C1, la C2, la C3, la C3 notamment avec Barcelone, si ma mémoire ne fait pas défaut, en 82, a été coach du Bayern Munich à 35 ans. Donc l'âge, je ne sais pas si on va reprendre la doctrine de Napoléon, mais en tout cas, dire que c'est bien ou c'est pas bien, je pense que c'est un faux débat. Voilà.
Voilà la minute sur le jeunisme en Allemagne, sur les bancs de touche de Polo. Alors, plusieurs entraîneurs de top 5 européens. Il est chez toi, Daniele, hein, entraîneur de Parme, 30 ans, Carlos Cuesta. Voilà. Urs Zeller est le deuxième à Brighton. On a Merlin Polzin, t'en as parlé tout à l'heure, 34 ans. Et puis, on a Kemba sans compagnie, hein, au Bayern, qui n'a que 39 ans. Vincent Compagnie, même pas un quadra. Voilà pour la minute de Polo. Dans un instant, faut-il s'inquiéter déjà pour l'Atlético de Madrid de Diego Simeone? J'ai l'impression qu'on se pose la question à peu près chaque saison. Reste avec nous, la suite est dans le Dame sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Julien, avec Polo, Daniele et Edgar, qui va conclure cette soirée drôle de dame. Edgar, tu voulais parler ce soir de l'Atlético de Madrid, 17e de Liga. Oui. Après trois journées, il y a une défaite, il y a deux nuls, hein, contre trois adversaires très à leur portée, l'Espagnol Barcelone, Elche et donc Alavés ce week-end. C'est quoi le souci, Edgar, alors que Diego Simeone a fait un gros mercato cet été?
Oui, c'est ça, et c'est tout simplement le pire tout début de saison de Diego Simeone depuis qu'il est arrivé à la tête de l'Atlético Madrid. Ça ne leur était pas arrivé depuis 2009, hein, d'avoir de si mauvais résultats sur les trois premiers matchs. Alors, est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter? Est-ce qu'il faut déjà paniquer? En tout cas, il faut pas paniquer, parce qu'il y a que trois matchs, mine de rien, et que cette équipe-là est quand même dangereuse. On a vu parfois, par moment, des bonnes choses dans le jeu, et je pense aussi que s'ils avaient un Alexander Sorloth en meilleure forme, les résultats n'auraient pas été pareils, même s'il a mis un but. Le problème de Sorloth, c'est que c'est un petit peu, vous savez, ce genre de numéro 9 qui marche par période, où parfois t'as l'impression que c'est l'un des meilleurs 9 du monde, et d'autres moments que qui pourrait jouer en 3ème division, et des fois les supporters sont frustrés avec lui, parce que là il y a eu des matchs sur ce début de saison où t'as l'impression que il a deux pieds droits, mais sauf que le problème c'est qu'il est gaucher, et donc ça rend des matchs quand même techniquement très très limités pour lui. Maintenant je pense qu'il faut quand même raisonnablement s'inquiéter parce que le problème de l'Atlético ne dure pas que depuis trois matchs en fait, parce que souvenez-vous de la fin de saison dernière où ils étaient en difficulté alors qu'ils avaient fait une saison plutôt bonne jusque-là. Entre mars et mai dernier, ils font quand même 6 défaites. Ils ont une élimination un petit peu malheureuse à la Coupe du Monde des clubs parce que finalement ils ratent qu'un seul match face au Paris Saint-Germain, mais ils sont quand même éliminés en poule. Et là donc une défaite est de nul, donc on a l'impression de reprendre là où on s'est arrêté sur les derniers mois de la saison dernière, et j'ai l'impression que en fait la relation entre Diego Simeone et l'Atlético de Madrid, il est là quand même depuis 14 ans, et j'ai l'impression presque de voir un vieux couple marié qui s'aime et qui s'aimeront toujours, mais où bah c'est plus comme avant en fait, c'est plus comme avant, il y a quelque chose qui marche plus aussi bien qu'avant, et là c'est le moment où ils doivent se regarder droit dans les yeux, se dire qu'ils s'aiment et qu'ils vont essayer de changer les choses. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'idée pour essayer de changer les choses? Eh ben on offre des cadeaux qui coûtent très cher, comme 167 millions d'euros de recrues, mais c'est pas là que la différence va se faire. Maintenant il faut faire des constats et il faut comprendre ce qui fait que bah les matchs serrés souvent tournent en la défaveur de l'Atlético, ce qui fait que l'Atlético a mené trois fois au score très tôt dans les matchs et n'a gagné aucun de ces trois derniers matchs, ce qui fait que l'Espagnol Barcelone par exemple a mis des buts de dingue contre eux et qu'on a l'impression que dès que quelque chose peut tourner dans le sens d'un adversaire, ça tourne dans le sens d'un adversaire. Ce sont des petits détails, comme disait l'éditorialiste référence ici Miguel Quintana qui travaille notamment pour Radio Marca. Il expliquait que c'était aussi ces petits détails qui n'étaient plus là pour l'Atlético, et maintenant il va falloir retrouver lui, comme il disait, la magie, retrouver en tout cas ce qui faisait que ces équipes de Diego Simeone étaient aussi dures à jouer. Moi je suis persuadé que les joueurs de l'Atlético, s'il y a bien un homme sur terre pour qui ils ont envie de se battre, c'est Diego Simeone, et que Diego Simeone, s'il y a bien une équipe sur terre pour laquelle il a envie de se battre et faire en sorte que ça marche, c'est l'Atlético. Et comme tu le disais Nico, il y a eu pas mal de saisons où on s'est posé des questions sur l'Atlético, et finalement avec Simeone, bah, il répond toujours présent dans les trois premiers.
La vérité pour lui, c'est effectivement rejouer avec des champions la saison suivante. Ce sera encore le cas cette saison. Tu parlais du mercato. Il y a le défenseur central slovène, hein, David Anko, 30 millions d'euros. Giacomo Raspadori, 22. Thiago Almada, depuis Botafogo, actionné pour 21 millions d'euros. Il y a un gros mois de septembre à venir aussi, attention. Edgar, oui. Hein, Villarreal, Liverpool, première journée Ligue des Champions pour l'Atlético, le Real et l'Eintracht pour conclure ce mois de septembre.
C'est ça, ils vont être testés tout de suite, et en tout cas, bon, il y a rien de mieux pour réagir qu'un match contre Villarreal et contre Liverpool, même si c'est compliqué, tu gagnes Anfield, au moins ta saison est lancée, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que l'Atlético en plus n'a pas de chance, je vais dire, sur leur tirage au sort en Ligue des Champions. Ils ont quand même l'un des calendriers les plus durs, notamment sur le plan des déplacements. Les déplacements, rendez-vous compte, ils prennent Liverpool, Arsenal, PSV, Galatasaray. C'est difficile de faire pire. Donc il va vraiment falloir, comme l'Atlético le fait presque tout le temps en Ligue des Champions, prendre tous les points ou pas loin à domicile au Metropolitano. On sait que particulièrement en Ligue des Champions, c'est vraiment une forteresse, et il va falloir le montrer une nouvelle fois cette saison, notamment face à l'Inter, hein, Daniele, ce sera en novembre. Mais voilà, ça va être un vrai test ces prochains mois pour l'Atlético. Je suis comme j'ai dit raisonnablement inquiet, mais je pense qu'ils peuvent quand même s'en sortir, notamment parce qu'ils ont fait mine de rien un recrutement de qualité avec des joueurs de profils différents. On voit parfois, ouais, des séquences de jeux intéressantes qui malheureusement pour eux ne se terminent pas en but. Il y a un vrai manque d'efficacité sur ce début de match, et on va voir aussi comment un joueur comme Antoine Griezmann peut toujours apporter à cette équipe là
17ème saison en Liga pour lui, oui, certainement la dernière, même si il faut jamais trop s'avancer, dernière année de contrat en tout cas. Comment tu qualifies son début de saison pour l'instant? Il récupère des minutes.
Oui, alors il rentre à peu près vers la 70e à chaque match pour l'instant. Il est remplaçant. C'est toujours un joueur qui crée en fait. C'est toujours un joueur qui crée, et qu'en fait quand tu regardes les occasions qui sont créées par rapport au temps sur le terrain, c'est le joueur le plus dangereux de l'Atlético en termes de XG par 90 minutes. Et je pense que c'est quand même une donnée importante, même si pour l'instant ça se concrétise pas dans les stats qui comptent vraiment, c'est-à-dire ce qu'il y a au tableau d'affichage. Je pense que c'est toujours un joueur important. Maintenant, Antoine Griezmann, en super sub, voilà, c'est sûr que c'est pas le joueur que tu vas lancer en profondeur. C'est surtout quelqu'un, je trouve, qui pèse sur le jeu, et donc de manière générale sur les dernières années, qui était meilleur quand t'es titulaire, ça c'est sûr.
Voilà pour l'Atlético de Madrid. Donc il y aura Liverpool pour attaquer la saison en Ligue des Champions. Polo, Julien, Piero Hincapié quitte le Bayer Leverkusen pour Arsenal. On en parlait depuis plusieurs jours, hein, Julien. Très bonne recrue. Je crois qu'on est à 50 millions d'euros encore lâchés par Arsenal, hein, qui a plus de 350 millions d'euros sur ce mercato. Évidemment, Polo, encore une fois, le Bayer dépeuplé. Il reste plus grand monde hein, au Bayer Leverkusen.
Ouais, mais ils ont fait des bons achats. Moi, c'est Guir. Je suis super content qu'il débarque à Leverkusen, je voudrais juste trouver un coach quoi.
Oui c'est ça, il faut trouver un coach, c'est urgent après l'limogeage de Ten Hag. Julien, voilà, ça y est la fiche mercato est complète pour Arsenal, on en reparlera hein, bien sûr dans les prochaines semaines hein. Mais eux aussi font un énorme maintenant. Mercato, Hincapié ouais. Polyvalent en plus, hein, qui peut jouer latéral, piston, milieu de terrain, voilà.
Ouais, tout à fait, c'est ça. Et Kivior qui va à Porto, donc Kivior, il remplace un petit peu, on va dire numériquement, mais il lui reste un an de contrat, donc c'est aussi une opportunité de marché.
On n'a pas parlé de Nico González hein, chez toi, Edgar, hein, à l'Atlético de Madrid, hein, qui a signé pour 32 millions d'euros en provenance de la Juve.
Hein. Effectivement, je lui ai demandé d'ailleurs à Daniele hein, ce qu'il pensait qu'il pouvait apporter, parce que Daniele, toi, tu le présentais comme une bonne nouvelle pour la Juve, que c'était un bon départ pour la Juve.
Oui, parce qu'à la Juventus, c'était un problème. C'était un de ces joueurs qu'il avait un peu fini son période d'essai et il n'avait pas trouvé une vraie place. En plus, avec les jeux des Tudor, il devait jouer plus vers les centres du jeu. Moi, je pense que le mieux, lui, il l'a fait quand il jouait à droite, un peu plus sur l'extérieur avec la Fiorentina. Il rentre dans la surface et il est aussi bon avec la tête. Mais c'est autre chose de ce qu'il faisait à la Juventus. En plus, les supporters, ils avaient perdu la patience.
Bon, et puis,
j'ai réussi à refiler Nico Jackson à Polo aussi.
Ah oui, exactement.
Ça a failli pas se faire. J'ai tout fait pour que ça se fasse, Polo, donc tu l'as récupéré.
Tiens, tu perds Lucas Touzard, Polo aussi, hein, ton Union de Berlin, ouais. Qui rejoint Brest.
Lucas, ouais, il est très sympathique.
Ouais, très bon mec, 5 saisons.
Ouais, et je trouve dommage parce que j'aime bien son style de jeu et il faudrait vraiment qu'il trouve un club qui lui fasse confiance du début jusqu'à la fin. Et alors, il avait une sacrée concurrence à Union hein, avec Khedira évidemment à la récupération, mais c'est quelqu'un en plus qui, je vais pas dire qu'il se fiche un peu du football, mais qui il est un peu carpe diem quoi et ça fait du bien quoi.
Il a que 28 ans, hein. Il a fait 3 saisons au Hertha d'abord. Hein. Il a bien commencé d'ailleurs son aventure au Hertha Berlin. Voilà les amis. Pour les drôles de dames du lundi soir, dans un instant, l'after, bien sûr, avec Gilbert, Daniel, Flo Gautreau et Jean-Louis Tour. Merci, Daniele. Merci, Julien. Merci, Edgar. Merci, Polo. Rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr.
Merci, messieurs.
Passez une très bonne semaine. L'after se poursuit sur RMC jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Bye bye.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.